La parole du jour avec le père Jean-Eudes Coulon.
Bonjour chers auditeurs, pour cette semaine de l'émission Parole du jour, je voudrais avec vous, chers auditeurs, évoquer le temps du carême dans lequel nous nous trouvons. Et le plan des interventions que je vous propose, de lundi à vendredi, c'est celui des évangiles des dimanches de carême qui se succèdent. Chaque année, c'est plus ou moins toujours les mêmes qui reviennent, ou en tout cas le même thème qui est exploré, d'autant plus que lorsque les catéchumènes sont présents dans les paroisses, même lors des années B et C du cycle des lectures dominicales, nous prenons les textes de l'année A, ceux de cette année. Ainsi, ces textes sont particulièrement évocateurs de ce qu'est le carême et de comment, du coup, nous pouvons le vivre. Ainsi, nous étudierons le premier dimanche, donc lundi, les tentations au désert et ainsi de suite, la transfiguration, la samaritaine, l'aveugle-né et pour le cinquième dimanche, donc vendredi, l'évangile de la résurrection de Lazare. On peut diviser ces cinq interventions en deux catégories principales. D'abord, les deux premiers dimanches, donc tentation au désert et transfiguration, qui sont l'amorce du carême, et puis ensuite les trois suivants qui sont le fruit du carême. Je m'arrêterai là, et ensuite le carême se poursuit avec la semaine sainte, dimanche des rameaux, jeudi saint, vendredi saint, et dimanche de Pâques, bien sûr. Alors, commençons par le premier dimanche de carême avec ce récit des tentations au désert, et en effet, il est assez logique au début du carême de se rappeler que le chrétien qui vit le carême le fait en imitant Jésus-Christ et les 40 jours qu'il passa au désert, tenté par le démon. C'est bien ce que nous faisons. Le carême, c'est un temps d'intimité particulière avec le Christ dans le désert. Le désert évoque bibliquement le lieu où l'on laisse faire Dieu. Comme les Hébreux qui furent abreuvés et nourris pendant 40 années au désert, Jésus va au désert pour manifester combien il fait confiance en Dieu. Et les chrétiens, à leur tour, vont au désert, le désert du carême, pour apprendre à faire confiance. Mais voilà que le désert est aussi un lieu de tentation. Combien de fois les Hébreux se sont-ils rebellés contre Dieu, pensant être abandonnés par eux? Et combien de fois nous-mêmes avons-nous expérimenté, alors que le carême commence et qu'il arrive que nous soyons motivés, les tentations se multiplient, même les plus absurdes? J'essaye du coup de faire un petit effort et les tentations deviennent plus insistantes, plus nombreuses. On peut faire sans doute une analyse psychologique de cela, mais ça ne saurait suffire. Ainsi, au début du carême, après les premiers jours qui suivent les cendres, l'Église nous propose-t-elle de méditer sur les tentations du Christ? Cet épisode nous paraît étonnant parce qu'il nous semble que le Christ, qui est tout entier dans la volonté du Père, ne peut pas être tenté. Eh bien, nous devons à nouveau considérer notre image du Christ, c'est-à-dire comment nous considérons qu'il est, qui il est. Il n'est pas un surhomme, c'est vraiment un homme, il s'est vraiment fait homme. C'est le principe même de l'incarnation. Et de même que Adam et Ève furent tentés, de même le Christ est tenté, parce qu'il est parfaitement homme. Et il est triplement tenté. La première tentation, c'est celle de transformer les pierres en pain. Il n'y a rien de mal là-dedans, sommes-nous tentés à notre tour de dire. Mais pour le Christ, l'enjeu, ce n'est pas de transformer les pierres en pain. En effet, l'enjeu est tout à fait secondaire. Il dit même ailleurs dans l'Évangile que Dieu peut faire jaillir des enfants d'Abraham à partir de pierres. Non. L'enjeu, c'est de détourner son pouvoir, sa puissance divine, au profit de sa satisfaction personnelle. Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus, du pouvoir que tu as? En effet, tu es homme, mais tu es aussi pleinement fils de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire de cette puissance divine qui est en toi? C'est la tentation de celui qui a reçu de Dieu des dons, des qualités, des talents, des richesses, du pouvoir, et qui détourne les dons de Dieu à son propre profit, pour sa propre satisfaction. C'est pourquoi la réponse du Christ à Satan dit qu'il se nourrit de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'expression de sa volonté. J'ai reçu de Dieu non seulement la puissance divine qui m'habite, mais j'ai reçu de Dieu aussi la volonté. Je veux faire ta volonté, dit le psaume que commentera l'Épître aux Hébreux. Et c'est en orientant l'usage des dons de Dieu vers la volonté de Dieu que le Christ repousse la tentation. La seconde tentation, c'est celle de la gloire. Puisque tu es le Fils de Dieu, alors Dieu veillera sur toi, il enverra ses anges qui te porteront sur leurs mains, ce sera particulièrement spectaculaire et tu seras glorieux ainsi transporté par les anges. Puisque c'est possible de le faire, fais-le, jette-toi. Mais la gloire que le Seigneur Jésus possède n'a rien à voir avec les yeux ébahis de spectateurs devant un spectacle époustouflant. Oui, Oui, il possède une puissance immense, on l'a dit. Mais ce qui compte, ce n'est pas la puissance, mais le but que le poursuit, ou plutôt le but que cette puissance sert. Ce que Dieu veut en envoyant Jésus dans le monde, ce n'est pas d'épater son monde avec la puissance, mais c'est bien de sauver les hommes. Il est venu pour le salut des hommes, et donc pour tourner les cœurs vers Dieu et sa sainte volonté. Alors non, comme plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus refuse le recours au spectaculaire. Jésus refuse de faire des signes pour faire des signes. Jésus refuse d'être couronné roi. Il recommande sans cesse aux personnes qu'il a guéries d'être silencieuses. Il recommande aux témoins de la transfiguration, que nous verrons demain, de garder le secret jusqu'à la résurrection. Il refuse de faire des signes uniquement pour faire le malin, uniquement pour qu'on l'admire, uniquement pour qu'on le suive. Non, il ne mettra pas Dieu à l'épreuve pour prouver ou se prouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de faire de l'épate. Ça n'est pas sa mission. Cette tentation est encore renouvelée un peu plus tard, lorsque les moqueurs lui diront, alors qu'il est crucifié, « Puisque t'es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Mais lui se tourne vers son Père, et à nouveau il fait confiance. Il n'a pas besoin de signe éclatant. Il fera simplement la volonté du Père, et la gloire qui est la sienne n'en sera pas diminuée, bien au contraire. La troisième tentation, c'est celle du pouvoir humain. Le diable change ici de stratégie. Lui et Jésus savent bien combien le pouvoir du diable est grand en ce monde. Jésus connaît le cœur des hommes et il voit bien combien le tentateur séduit, combien il est efficace. Je ne parle pas ici des films à spectacle où on chasse des démons, etc. Je parle du plus important, de la lutte que le diable mène en chacune de nos âmes et dans laquelle il est hélas, nous en sommes chacun témoin pour nous-mêmes, il est hélas bien souvent victorieux. Le diable veut bien laisser ce pouvoir à Jésus qui vient pour sauver les âmes. Je te les donne, je renonce à tout et je te le donne, pourvu que tu te prosternes devant moi, c'est-à-dire pourvu que tu te détournes de Dieu le Père. Parce que se prosterner devant le diable, c'est renoncer à sa filiation divine, c'est renoncer à son être de fils de Dieu. Pour Jésus, c'est abandonner qu'il est fils de Dieu, abandonner la vérité de son être. Se prosterner devant le diable, c'est renoncer à la vérité, c'est mentir et devenir esclave du mensonge. Non. Non, il ne renoncera pas à être fils de Dieu, il l'est de toute éternité. Il sait qu'il doit tout à son Père, c'est la vérité. Et il refuse d'abandonner la vérité pour s'enfermer dans le mensonge. Ça n'est pas ainsi qu'on sauve. Se confronter aux tentations du Christ au début du carême, ce que nous avons fait au premier dimanche, c'est découvrir que nous ne sommes pas seuls dans le combat spirituel. Jésus est tenté, nous sommes tentés. L'enjeu du carême est alors clairement exprimé. Il s'agit de ne pas entrer dans la tentation, de ne pas succomber à la tentation, comme le Christ, avec le Christ, par le Christ. Devenir vainqueur de la tentation. Merci chers auditeurs et à demain.